Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est en direct jusqu'à 20h55 avec l'équipe du vendredi 100% masculine, c'est comme ça. Salut à tous les quatre.
Bonsoir ma bête.
Si j'avais le choix. Il y a la voix qui va avec. La voix du slip de Pierre. Salut à tous les quatre. Mohamed, votre story ce soir.
Je vous raconte une très très belle histoire, celle de Sami Nouri. Il a quitté l'Afghanistan à 5 ans après l'arrivée des talibans au pouvoir. Aujourd'hui, il va défiler lors de la Fashion Week. C'est l'un des plus grand styliste mondial, il s'exprime ce soir dans cet avis.
Patrick, votre édito.
Poutine a célébré l'annexion d'une partie de l'Ukraine aujourd'hui au Kremlin. Il a parlé de nous. De nous, les délais, les décadents, les amoraux, les occidentaux qui sont les sataniques.
Et on s'est reconnus, évidemment. Mathieu, dans votre 5 sur 5.
Est-ce que vous vous souvenez du procès Johnny Depp, Amber Heard?
Ah oui.
4 mois seulement après la fin de ce procès, déjà un téléfilm et des acteurs qui en parlent, ça va très très vite aux États-Unis.
Ah oui, ça va très très vite. L'actualité que l'on commande ce soir avec deux femmes engagées, devenues au fil de leur carrière, deux productrices qui mettent leur notoriété au service des causes qu'elles défendent. Eva Longoria sera dans un instant sur notre plateau. Karine Le Marchand est déjà avec nous. Bonsoir, chère Karine.
Oui, on commence soft et puis elle arrive tout à l'heure, vous inquiétez pas.
Ce soir, c'est un documentaire qui sera diffusé jeudi prochain en prime time sur M6 dont vous nous parlez. Un film consacré au transgenre. Et vous en avez eu l'idée. Vous avez eu l'idée de parler de ce phénomène de société-là. Pourquoi, chère Karine?
Parce que j'y connaissais rien et que je me suis sans doute surprise à avoir des idées un peu négatives. Je voyais les Kardashians avec le père qui devient femme et tout ça. Je me suis dit, mais c'est un phénomène de mode, c'est bizarre. Et là, je me suis dit, oh là, Karine, tu n'es pas tolérante, renseigne-toi. Et j'ai commencé à creuser cette thématique-là, rencontrer des personnes concernées, des spécialistes. Et j'ai dit, il faut faire un doc parce que franchement, on est loin du compte.
Dans un instant, l'un des personnages de ce documentaire sera à vos côtés. Emma, qui est devenue une femme à 57 ans, après pendant des années avoir gardé ce secret en elle. Trans, unique en leur genre, c'est le titre de ce documentaire dont on parle dans un instant. Pierre, votre œil.
Le chanteur Arnaud nous a quittés en avril dernier et aujourd'hui est sorti son album posthume, Opex. Opex, c'est le nom de son quartier d'enfance à Ostende. Je vous présenterai l'album tout à l'heure.
L'occasion de réentendre des merveilles de chansons d'Arnaud. Nos invités du dîner, ce sont 4 Lyonnais. Laurent Gérard, Christelle Bardet, Thierry Frémaux, Jérôme Bocuse. Ils nous parlent de cette ville où ils ont grandi, qui leur a fait aimer la gastronomie, le cinéma, où Laurent Gérard a fait ses premiers pas. Bref, ils nous disent pourquoi cette ville a tant compté pour eux autour d'un dîner préparé par un jeune homme qui n'est pas du tout lyonnais et qui s'est contenté d'acheter un pâté en croûte. Du coup, il est puni, il n'est pas là en cuisine parce qu'il ne fait pas semblant de cuisiner. Il est en train d'acheter le pâté.
Pourvu qu'il en trouve.
Ouais. Le pâté croûte.
Mais il fera un point cuisson à 20h, rassurez-moi.
Oui, un point pas cuisson.
Un point pas cuisson.
Votre pâté froid, en plus, ils vont becquer. Oh, ils vont avoir des rototos toute la soirée.
Le temps, ça vous est tous arrivé ou pas?
Tant pis.
C'est Louis Momem
s'en fiche.
Qui est en train de faire ses courses. Il sera là tout à l'heure pour le point cuisson, qui est le moment préféré de l'émission de Patrick. Moi, l'un de mes moments préférés, c'est l'édito de Patrick.
Merci.
C'est l'un de mes moments, il y en a d'autres. La Russie s'est donc agrandie aujourd'hui.
D'environ 110 000 km², enfin c'est ce que Vladimir Poutine a tenté de faire croire aux Russes lors d'une cérémonie d'annexion qui s'est tenue dans la plus grande des salles d'apparat du Kremlin, la salle Saint-Georges, où le président russe a fait une arrivée, vous allez voir, tout en discrétion et sobriété.
Président Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Il y a de l'or un peu partout et pour information, chacun des lustres en bronze doré, j'ai vérifié, pèse 1,3 tonne.
Il ne faut pas qu'il y en ait un qui tombe.
Ils sont bien accrochés, je pense. Le discours de Poutine a été à peine plus léger, avec une interminable diatribe contre l'Occident.
Они желают нам не свободы, а хотят видеть нас колонией. Хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов.
Colonisateurs, voleurs, esclavagistes, racistes, mais aussi satanistes, décadents et amoraux, voulons-nous, a lancé Poutine, que dans notre pays, au lieu d'avoir un père et une mère, nous ayons un parent numéro 1 et un parent numéro 2?
C'est ce qui avait été envisagé en France.
Oui, oui, il y a 3 ans, dans les formulaires scolaires, pour tenir compte des familles homoparentales, mais la mesure avait été rejetée par le Sénat et abandonnée. Voulons-nous, a poursuivi le président russe, qu'on parle à nos enfants des opérations de changement de sexe? On est tout près du sujet de Karine.
Bah voilà. Oui. Faut qu'il regarde mon documentaire.
On va lui suggérer.
Là, il a plutôt lu Michel Onfray, je crois.
On est quand même très loin de l'Ukraine.
Oui, mais tout à son obsession anti-occidentale, Poutine ne parle quasiment plus de l'Ukraine, cet État qu'il avait juré de démilitariser, de dénazifier il y a 7 mois et qui met son armée en difficulté dans le Donbass. Le président russe s'est contenté d'affirmer que ces annexions proclamées 3 jours après la clôture des simulacres de référendum dans les 4 régions concernées, que ces annexions seraient irréversibles.
Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда.
Russe pour toujours, et le Kremlin a confirmé que toute attaque contre ces territoires serait considérée comme une agression contre la Russie elle-même, alors que les forces russes n'occupent pas la totalité de ces zones annexées. Enfin, Vladimir Poutine a appelé l'Ukraine à un cessez-le-feu et à revenir à la table des négociations. Réponse instantanée de Volodymyr Zelensky, d'accord pour négocier, mais quand la Russie aura changé de président.
Він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії.
Enfin, dernière image de Moscou et de cette cérémonie présentée par la télévision russe comme un grand moment historique et patriotique. Poutine et les 4 dirigeants pro-russes joignent leurs mains et scandent « Russie » avec la salle.
Bilan de cette journée.
Du grand spectacle à usage interne, alors que la société russe commence à bouillonner, voire à gronder contre le pouvoir. On en parlait l'autre jour avec Laure Mandeville, que des dizaines de milliers de jeunes tentent d'échapper à la mobilisation. Mais sur le fond, rien de neuf. L'Union européenne, les États-Unis, le G7 ont répété qu'ils ne reconnaîtront jamais ces annexions. Et les forces russes en difficulté sur le champ de bataille multiplient les frappes meurtrières contre les civils. Pas loin de Zaporijja, 25 morts et une cinquantaine de blessés ce matin dans une colonne de véhicules. Les victimes attendaient la permission de retourner dans les territoires sous contrôle russe.
Ces images, elles vous inspirent quelque chose, là, le décorum, ces quatre hommes comme ça qui scandent Russie, Russie en se tenant la main, et puis les déclarations de Poutine. Voulons-nous qu'on parle à nos enfants des opérations de changement de sexe? Vous pourriez lui répondre.
C'est bizarre qu'il dit ça là maintenant, il a que ça à foutre.
Mais parce que ça fait partie de son combat depuis longtemps, en expliquant que les Occidentaux étaient des décadents et qu'il fallait sauver les valeurs morales et familiales. C'est l'un des axes de son combat. Et c'est un axe aussi qui a rallié un certain nombre de soutiens, de partisans dans nos sociétés aussi, dans le passé tout au moins.
Oui, y compris en France. Justement, pourquoi tout d'un coup des individus décident de changer de sexe? Parce que c'est une souffrance, c'est ce que vous expliquez extrêmement bien dans ce documentaire. C'est le cas d'Emma, qui a passé les 2/3 de sa vie dans le corps d'un homme, marié à 23 ans, père de 3 enfants, chef d'entreprise, avant d'entamer sa transition à 57 ans.
Emmanuel, lui, était déjà marié et père de 3 enfants lorsqu'il a fait voler sa vie en éclats pour devenir une femme.
Je sentais qu'il y avait un changement parce qu'il commençait à s'effiler les poils, sur les bras, sur les jambes.
Ouais, je commençais à s'y pousser les cheveux.
Je ne me serais jamais dit « Ah, mon papa est en train de devenir une femme ». Je pense que l'information était tellement, tellement absurde sur le coup pour moi que j'ai essayé de l'évacuer de mon esprit.
Bonsoir Emma Baconnet.
Bonsoir.
On est ravis de vous accueillir ce soir aux côtés de Karine. Merci. Vous racontez votre histoire dans ce documentaire qui est passionnant, mais très longtemps, alors que vous vous sentiez femme, Vous ne l'avez dit à personne.
Non, très longtemps, oui.
Vous avez gardé ce secret en vous. Vous l'avez tué pendant des années, des années, des années.
Oui, pendant 57 ans à peu près, oui.
Pour quelle raison? C'était impossible à dire. Vous aviez peur de tout perdre.
Oui, j'imaginais pas deux secondes que je puisse passer le cap. Pour moi, c'était totalement impossible. Enfin, puis on a surtout peur de tout perdre. On a peur de perdre sa femme, de perdre ses enfants, de perdre son travail. Enfin, même si j'étais à l'époque le patron, on est tétanisé par la peur, en fait.
S'autorisait pas à non. être elle-même, en
non.
fait. Mais parce que aussi c'est une question de génération.
Oui.
Emma a 60 ans et il y a 60 ans, la question du genre ne se posait pas du tout.
Non, j'ai commencé à le découvrir à la quarantaine quand le web est arrivé, parce qu'en fait.
Oui. Vous étiez patron d'entreprise.
Oui.
Et le samedi, lorsque vous étiez à l'abri du regard, vous pouviez laisser un peu libre cours à votre désir de féminité.
Oui. Oui, c'est ça. C'était des petites parenthèses que je m'offrais comme ça. Puis pendant les vacances également, quand ma femme partait avec les enfants, j'en profitais également.
Pour vous changer,
se travestir, et voilà. Et puis vivre un peu.
On parle d'un jardin secret, mais c'est pas le bon mot. C'était une prison.
Oui, au départ, je pensais réellement que c'était un jardin secret. Puis oui, ça devient surtout une prison, effectivement. Parce qu'on,
c'était envahissant.
C'est envahissant. Et puis plus le temps passe, plus ça monte. C'est une pression qui vous envahit et ça m'occupait l'esprit sans arrêt, en fait.
À 57 ans, vous décidez d'entamer cette transition.
Oui.
Vous prenez des hormones, vous quittez votre entreprise. C'est toute votre vie qui vole en éclats. Et ce qui est incroyable, quand même, c'est que votre femme est restée.
Oui.
Même si, évidemment, pour elle, ça a été un sacré bouleversement.
Oui.
Il m'explique qu'il est vraiment mal et qu'il aimerait bien que sortir avec moi...
À dehors.
Femme en dehors. Il y a eu un autre week-end à Jersey, et là, c'est là où elle m'a dit...
Parce que tu mets le changement sur la décision.
Voilà. Je vais prendre des hormones pour vraiment devenir une femme. Et sans doute, je me ferai opérer.
Alors, en fait, l'histoire a duré 15 ans, c'est-à-dire que ça s'est... Ce qui est intéressant chez Emma, c'est que ça a été très, très long. Donc, il y a 15 ans déjà, elle s'est fait choper, en fait, avec un placard démaquillant. Et Marie, en rentrant, pensait qu'elle avait une maîtresse, que son mari avait une maîtresse. Et là...
J'ai expliqué, voilà, j'ai déballé mon histoire. Et puis, finalement, elle a plutôt bien pris. Elle aurait beaucoup moins bien pris.
Si vous aviez une maîtresse.
Ouais, curieusement.
Non, et pendant 15 ans, en fait, ils ont collaboré. La transition s'est faite à deux,
très doucement,
qu'ils partaient loin.
Très progressivement, j'ai laissé le temps. Et puis, il s'est installé un long moment de silence entre nous, quand même, pendant 4 ans. Puis je suis revenu à la charge, mais tout doucement. Je voulais déjà montrer les photos de moi. Au départ, elle ne voulait pas. Puis ensuite... Ouais. Alors, j'étais vraiment très progressivement à pas de loup, parce que c'est compliqué, en fait.
Elle a accepté de vous répondre, Marie, l'épouse d'Emma, mais elle ne voulait pas au début.
Oui.
Preuve que c'est quand même très compliqué. Hein.
Ah oui, c'était lourd. Mais je pense que ce documentaire vous a fait du bien.
Oui.
Hein, parce que la parole s'est libérée. Et c'est vrai qu'au départ, elle m'a dit « je ne veux pas témoigner ». Puis finalement, elle a dit « je veux bien témoigner, mais je ne veux pas qu'on me reconnaisse ». Et en cours de tournage, elle a lâché quelque chose.
Oui, ouais.
Et elle a assumé. Mais c'est vrai qu'elle exprime avec beaucoup de délicatesse aussi ce qu'elle a vécu. Les enfants aussi. Et dans ce documentaire, avec les trois personnes qu'on suit, les proches expriment en fait la difficulté qu'ils ont de voir la transition de ceux ou celles qu'ils aiment.
Oui, les couples qui résistent, c'est quand même extrêmement rare.
C'est pas très fréquent, non. Parfois, il y a des ruptures, mais catastrophiques, enfin dramatiques. Et c'est tout à fait normal d'avoir peur. Enfin, c'est quelque chose qui est... complètement logique.
Elle dit d'ailleurs, Marie, que si la chose s'était produite à l'âge de 30 ans, parce qu'il y a beaucoup de renoncements aussi à beaucoup de choses, elle ne serait peut-être pas restée.
Oui, sûrement. Oui.
On ne sait pas. Non, mais c'est vrai, on ne sait pas.
Dans votre documentaire, Karine, on découvre également le parcours d'Aïla, un parcours douloureux, car on voit qu'elle a été confrontée à la souffrance de ses parents qui ont eu du mal à accepter que leur petit garçon devienne une petite fille, une femme. Et aujourd'hui, à 33 ans, elle se retrouve confrontée à la difficulté de trouver un emploi, car elle s'appelle encore Nicolas sur ses papiers d'identité et doit donc continuellement se justifier et faire face à bien pire que cela.
J'ai eu le droit quand même à des humiliations quand même très poussées pendant des entretiens d'embauche. Une très grande marque de luxe française. Je me suis évidemment présentée en tant que femme, mais sauf que ma carte d'identité n'était pas encore changée. Et là, la femme de l'accueil a éclaté de rire, mais éclaté à gorge déployée. Hein. Vraiment, je pense qu'on l'a entendu dans toute la rue. Elle en a pleuré de rire devant moi. Et ça a été hyper humiliant.
Il y a encore beaucoup d'entreprises, d'employeurs qui refusent, qui n'entendent pas accepter de personnes
transgenres
ou en cours de...
Ah oui, oui,
c'est très compliqué quand on n'a pas ces papiers, c'est juste une horreur. C'est... Ouais. Les candidatures ne sont pas retenues, on ne vous dit rien, bien sûr, mais ça n'a pas été mon cas parce que je n'avais pas géré ce problème, mais c'est la problématique pour les plus jeunes qui est...
Ouais. Il y a un gap, en fait. Il se passe toujours quand même un temps bien plus sûr. Ou moins long entre le début du traitement, de la transition et la fin au niveau des papiers. Et non seulement le changement de prénom, mais le changement de genre sur les papiers.
C'est bien plus compliqué, ça. Mmh.
Ça, c'est compliqué. Et pendant très longtemps, ça a été vraiment la croix et la bannière pour les personnes concernées pour obtenir ce changement de genre de naissance. Mais parce que le législateur ne veut pas se prononcer aussi sur beaucoup de choses. On parlait de la Russie avec parent 1, parent 2, jusqu'en 2016, où la France a été condamnée par les droits de l'homme. On obligeait les personnes transgenres à prouver leur
stérilisation.
Leur stérilisation.
Oui.
Et s'ils ne le prouvaient pas, on ne pouvait pas changer de genre. Parce qu'ils ne voulaient pas se trouver confrontés à quelque chose qu'ils refusent aujourd'hui, c'est que...
Une mère devienne un père
après, ou inversement, puisqu'ils ne veulent pas se prononcer par rapport à la GPA, etc. Donc pour l'instant, il n'y a pas de parent 1, parent 2. Et donc c'est donc assez compliqué.
Oui, ça reste compliqué.
Vous avez également suivi le jeune Zach, tout juste 18 ans. Il a déjà fait plusieurs opérations et lui, ses amis le soutiennent.
Je dois le soutenir parce que je suis son ami et puis ça me fait plaisir de voir que lui, en changeant comme ça, il est heureux.
Moi, j'avais déjà entendu parler de ce que c'était d'être une personne transgenre et j'avais aucun a priori, aucun préjugé. Pour notre génération, je pense que la question du genre ou de la sexualité est beaucoup plus ouverte maintenant et c'est beaucoup plus facile d'assumer. Plus on avancera et plus les gens seront ouverts d'esprit sur le sujet.
C'est la grande satisfaction, c'est que la jeune génération d'aujourd'hui est largement ouverte.
Ah ben c'est sûr.
Et intelligente.
Oui. Ah ben c'est trois générations, trois façons de vivre la transidentité totalement différentes dans ce documentaire. C'était ça qu'on a vraiment voulu chercher. Après, ça reste quand même le parcours du combattant. C'est, ils ne sont pas rejetés par les copains à l'école. Maintenant, il y a quand même d'autres embûches et c'est pas du tout...
Oui, c'est pas forcément simple.
Voilà, hein, c'est pas facile. Hein.
Ça concerne 15 000 personnes à peu près.
Ouais. On estime, oui.
On estime en France. Malgré tout, c'est pas rien d'entamer une transition. Il faut être très bien entouré et s'adresser au bon médecin. Parce que vous m'expliquiez qu'aujourd'hui, en France, il est impossible d'entamer un traitement hormonal si on n'a pas 25 ans ?
Non, c'est pas ça. Le traitement, c'est à partir de 18 ans pour être pris en charge par la Sécurité sociale et être dans un protocole où tout est pris en charge, tout est remboursé. En revanche, aujourd'hui, et c'est peut-être le danger, parce qu'il faut être sûr que ce soit bien une dysphorie de genre, les jeunes peuvent très bien aller voir maintenant un médecin qui va leur prescrire, dans le privé, qui peut leur prescrire des hormones. Mm. C'est ça le danger. C'était le cas de Zach.
Oui, oui.
C'est vrai.
Oui. Non, c'est vrai qu'il y a une législation qui est un peu floue quelque part, parce qu'on a, en fait, on peut passer à travers, on peut... Puis même si la Sécu vous refuse, moi j'avais l'intention de me faire opérer en Thaïlande si on m'embêtait sur ce sujet-là. Donc c'est vrai que la situation n'est pas claire et on ne peut pas tout cadrer non plus de toute manière. De toute façon, c'est impossible à cadrer complètement.
Mais ça fera l'objet du débat qui suit le documentaire. Il est important de poser toutes ces questions-là.
Alors, ce n'est pas un débat pour ou contre la transidentité, parce que la question ne se pose pas. Et puis, qui sommes-nous pour se mêler de quelque chose de très intime ? En revanche, la question, c'est vraiment pour les parents, parce que maintenant, dans chaque lycée, il y a un jeune qui dit je me sens transgenre, etc. Donc, ça devient aussi un phénomène de société, un petit peu.
Oui.
Et il faut pouvoir répondre. Et je crois qu'il y a beaucoup de parents qui se posent la question, tiens, si mon enfant... me disait à 3-4 ans, mon fils, je refuse de mettre des pantalons, je veux des robes, je veux des couettes, je suis une fille, comment réagir? Donc on a voulu vraiment donner la parole à des spécialistes et des parents concernés autour de voilà, comment agir quand on est parent. Mmh. Voilà.
Vous avez gardé le même prénom?
Presque.
Ouais. Emmanuel est devenu Emma.
Emma, voilà, c'est pas très loin.
Ouais, ouais. Mmh. C'est pas très loin et ça permet d'éviter de refuser totalement la précédente identité. C'est le cas de Zach.
Ah oui, ouais. Ça, moi, j'y tenais beaucoup, en tout cas pour moi.
Ouais. Donc il y a une espèce de continuité.
Je reste la même personne, et autant pour Zach que pour Ayla. Enfin, on reste la même personne, au fond, on n'est pas. J'ai passé mon temps à rassurer ma famille en disant oui, je change, mais je suis la même personne. Voilà, c'est pas. Je suis juste plus libérée, plus heureuse, plus épanouie, mais.
Tes enfants t'appellent papa et tu veux pas que voilà, tu les obliges pas.
Ça peut
à
changer les choses tant que ça. Bien sûr, l'apparence a changé, forcément, mais heureusement. Ouais. Mais c'est pas. Voilà.
Mais Zach, en revanche, lui, refuse, ça s'appelle le dead name, le prénom de naissance, refuse qu'on l'appelle et il faut le respecter. Mmh. Chacun, en fait, a sa sensibilité, chacun doit avoir son chemin.
Trans unique en leur genre. C'est diffusé le jeudi 6 octobre à 21h10 sur M6. C'est une coproduction Potiche Prod. Ça, c'est le nom de votre boîte de production. C'est tout sauf Potiche, hein, ces idées, ces documentaires. C'est écrit et réalisé par Delphine Signé. On est vraiment ravis que vous soyez venus toutes les deux nous en parler ce soir sur le plateau C'est à vous. Comme vous, Karine Lemarchand, c'est une actrice. Enfin, elle n'est pas actrice.
Mais
cette actrice, réalisatrice, productrice américaine a des convictions. Et elle les défend en s'adressant directement aux femmes.
It's easy to forget just how special that phrase is and what a gift it is to tell somebody you're worth it. It's a gift I wouldn't have minded when I was in first grade, when I had to take a bus to a new school in a new neighborhood with new kids. I remember walking onto the school bus and realizing nobody else looks like me. I had dark skin, I had dark hair, I had dark eyes. So when I say you're worth it, I'm saying it to that little girl who feels like her hair or her skin is just a little bit too dark. Because I know she needs to hear it right now and I want her to feel proud of who she is.
Bonsoir Eva Longoria.
Bonsoir.
Ravie de vous retrouver à nouveau sur le plateau de C'est à vous. Cette vidéo très engagée, vous l'avez enregistrée pour L'Oréal Paris, dont vous êtes l'une des porte-paroles internationales. Dimanche, vous allez participer à un événement très particulier, le défilé Walk Your Worth, marche et affirme tes mérites, organisé par L'Oréal dans un lieu symbolique et historique du pouvoir masculin, l'école militaire à Paris. Ce défilé, c'est le moyen de dire aux femmes qu'elles doivent investir tous les lieux de pouvoir, absolument tous.
Yes.
Je pense que c'est très audacieux qu'une marque telle que L'Oréal choisisse cet endroit, l'école militaire, ça a toujours été dominé par les hommes historiquement. Et je pense que c'est un choix qui symbolise que les femmes doivent occuper justement tous les espaces, tous les immeubles, toutes les bâtisses dans tous les pays. Et en fait, j'applaudis la marque parce que ça a toujours été une marque féministe. Il a toujours s'agi des femmes. Ce n'est pas une question de cheveux ou de maquillage, mais c'est... On le vaut bien. Et les femmes devraient trouver leur valeur partout. On doit trouver sa valeur dans les relations, dans la vie. Il faut toujours célébrer qui on est. Ce n'est juste pour moi une extension de faire ce défilé à l'école militaire. C'est une extension du travail que L'Oréal a toujours fait.
Aujourd'hui, il y a 29 femmes dans le monde qui dirigent un pays ou un gouvernement sur les 195 États reconnus par les Nations Unies. En France, c'est une femme qui est à Matignon, première ministre. Aux États-Unis, Kamala Harris est vice-présidente. Bon, il faut que ça change et il faut qu'il y ait une femme qui rentre à la Maison Blanche. Ce serait ça le vrai symbole?
Yes. Oui. Et tout le monde.
Je pense que le monde entier serait mieux s'il y avait plus d'équilibre. Historiquement, nous avons eu donc des dirigeants hommes dans tous les pays et regardez où nous en sommes. Nous sommes un monde totalement divisé. Notre pays, aux États-Unis, est divisé. Si l'on regarde ce qui se passe aux États-Unis avec les droits des femmes qui sont attaquées, et en Iran, tout cela est lié. Nous sommes liés. Toutes les femmes sont liées face à nos problèmes. Donc pour moi, ne pas avoir une place à la table, ne pas avoir une voix, pour moi, c'est un effet direct de tout cela. C'est pour cela que nous n'avons pas de voix dans les politiques, dans tout ce qui est politique et qui touche le monde. Nous sommes plus que la moitié de la population mondiale. Nous devrions représenter plus que la moitié.
Vous l'avez dit, l'un des grands combats aujourd'hui aux États-Unis est celui du droit à l'avortement, Pierre.
En juin dernier, on le sait, je le rappelle, la Cour suprême a décidé de laisser chaque État décider d'interdire ou de légaliser l'IVG. Depuis, des États conservateurs ont supprimé ce droit. Les menaces contre les médecins dans votre pays se multiplient, comme l'a dénoncé il y a quelques jours Hillary Clinton.
A very small minority is going to keep pushing this to the extreme, and now we're seeing it, where doctors are intimidated that if they practice their profession, if they do no harm by saving a mother's life, by ending a totally unviable pregnancy, they could go to jail. This is dystopian. This is the Handmaid's Tale writ large. You know, pro-life means you honor life, and that includes the life of the mother. And it includes absolutely making decisions that are in the best interests of women.
Il y a quelques jours, l'Arizona a réactivé une loi du 19e siècle qui interdit presque totalement l'avortement. Yeah. Le Texas, l'État où vous êtes né, impose également des lois très restrictives. Vous pensez que la partie va être perdue pour longtemps ou vous pouvez retourner le mouvement?
No. Things will turn around.
Non, ça va revenir comme avant. Les choses vont tourner. Comme a dit Hillary, c'est une petite minorité qui souhaite tout cela. Et le sujet n'est pas vraiment l'avortement, c'est d'enlever les droits aux femmes. Et ça commence avec l'avortement. Et après, ça va passer au droit de vote, et le droit de conduire, et nos droits de porter un pantalon, par exemple. Cela va continuer dans un sens qui n'est pas bon pour les femmes, dans quelques pays que ce soit, surtout aux États-Unis. Où nous sommes fiers de notre démocratie incroyable. Mais j'espère, je crois, je suis convaincue, nous avons des élections à venir au mois de novembre. Il y avait une élection très importante récemment dans un État conservateur et les femmes sont venues à voter et ont effectué un changement. Cela peut arriver dans un État rouge. Cela peut arriver pour les femmes. Il faut prendre deux pas en arrière pour faire trois pas en avant.
Votre engagement ne se limite pas au combat pour les femmes. Il y a un peu plus de deux ans, vous avez participé à la convention démocrate qui a désigné Joe Biden comme candidat.
Good evening. I'm Eva Longoria Bastón, and welcome to the 2020 Democratic National Convention, Uniting America. Every 4 years, we come together to reaffirm our democracy. This year, we've come to save it. It's going to take all of us. So tonight, we stand together, united by the values we cherish: decency, respect, justice, and the opportunity to rise up. We always hear that line about this being the most important election of our lifetimes, but this year, it really is.
C'est l'importance de l'enjeu après 4 ans de Trump qui vous a fait intervenir à cette convention.
Well, I've been involved in politics for the
last 20 years. Je participe aux politiques depuis 20 ans et ce que j'ai dit, ça demeure vrai. Chaque élection a l'air d'être très importante et il y a chaque fois un problème actuel et on ne peut jamais lâcher la démocratie, on ne peut jamais enlever son pied de l'accélérateur. Il faut toujours se battre pour ses droits. Nous allons devoir toujours nous battre pour la justice. Et comme j'ai dit, je pense que tout ce qui se passe dans tous ces pays est totalement lié à nous tous et à nous toutes. Et je viens du Texas et ça ne veut pas dire que je ne comprends pas ce qui se passe en Italie, par exemple. Il faut être fier, eh bien, il y a une femme à la tête de l'Italie, mais pas celle-là, quoi. Ou alors ce qui se passe en Iran, tout à fait. Tout cela, mon combat, qui est tout petit, a participé à cette convention, mais c'est pour ces femmes en Iran. C'est pour les femmes partout dans le monde qui se battent, qui utilisent leur corps carrément pour se battre pour les droits, qui en fait mettent leur corps en danger juste pour qu'on entende leur voix. Pour moi, ça vaut la peine de se battre.
Vous participez également, toujours pour L'Oréal Paris, à des enregistrements pour apprendre aux femmes à lutter contre le harcèlement de rue. C'est un fléau dans de très nombreux pays, un combat qui doit se mener avec des lois plus sévères.
Partout.
Partout, oui.
C'est partout.
Des lois plus sévères.
Yeah. I mean, L'Oréal actually did a study.
Oui, L'Oréal a fait une étude
a couple years ago,
il y a 2-3 ans, ce qui a montré que le problème le plus important pour les femmes partout dans le monde, c'était l'harcèlement des rues. Quel que soit le pays, quelle que soit la race, on rencontrait ce problème. Donc L'Oréal a fait un partenariat avec Stand Up, qui est un programme de formation pour l'intervention. C'est les 5D, c'est une méthodologie où on peut intervenir directement, on peut distraire, on peut essayer de sortir la femme de la situation, on peut déléguer, on peut appeler un policier. Et souvent, nous voyons ce genre de choses. Des hommes voient l'harcèlement de la rue et ils ne veulent pas s'en occuper. Ils disent, ah ben c'est peut-être son mari, son copain, ils ne veulent pas s'impliquer. Donc c'est un programme de formation qui nous aide à comprendre comment il faut intervenir. Mais c'est vrai que c'est très très courant, en passant du Brésil jusqu'au Moyen-Orient et jusqu'aux États-Unis, partout.
Vous avez été victime de harcèlement de rue plus jeune, Eva?
Oh yeah, oh my God.
Bien sûr, oui.
Oh my God.
Si vous saviez. Donc, qu'on siffle ou qu'on vous appelle, jusqu'à ce que quelqu'un qui vous embête pour de vrai, hein, quelqu'un qui vous accoste, cela arrive. Hein, il ne faut pas que ce soit l'extrême d'un viol, par exemple. C'est juste, on ne peut pas avancer dans sa journée sans que quelqu'un vous embête.
Quel est le message aux hommes qui pourraient être des harceleurs de rue? Qu'est-ce que vous voudriez leur dire?
Stop!
Arrêtez! Stoppez! Ce n'est pas la bienvenue.
Votre combat est aussi quotidien pour que toutes les femmes s'acceptent comme elles le sont et qu'elles ne répondent pas aux stéréotypes qu'on leur impose. Vous acceptez par exemple de faire la promotion d'un produit et de montrer que vous avez des cheveux blancs.
Look at these grays. So many grays. Okay, I'll be honest. For a second, I thought, okay, Grace, I'm ready to see you. I can handle this. But I'm not. I'm not ready. I've never been this gray in my life. I don't think there's ever going to be a better before and after. Okay, time to color. I go from back to front, back to front. I'm not the best blow dryer. I look like Beyonce, but I think I did a pretty good job. Whew. No more gray.
C'est une vidéo vraiment vraie, totalement vraie. C'était pendant le Covid et je me suis dit, je ne sors pas, donc je vais laisser apparaître mes cheveux blancs. Et après 2-3 mois, je me suis dit, non, ce n'est pas possible, je ne suis pas prête. Et puis j'ai refait une couleur sur Instagram et c'était une des vidéos plus populaires que nos pubs L'Oréal. Et L'Oréal m'a demandé de recommencer. Donc c'est vrai que je suis vraie. Les gens qui me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un de vrai. Mais c'est rigolo de pouvoir montrer ça.
Mais après, le vrai combat, ce serait qu'on accepte d'avoir des cheveux gris, un point c'est tout, et qu'on s'accepte nous-mêmes avec des cheveux gris ou pas?
Karine.
Et Karine, oui, vous êtes d'accord avec moi? Il faudrait qu'on accepte d'avoir des cheveux gris, basta?
Non.
Oh, do we have to accept? No, I mean,
est-ce qu'il faut s'accepter? On peut faire des couleurs, on peut se prayer, on peut vaporiser, on peut garder ses cheveux. Voilà. Mais l'intérêt, c'est que c'est son choix, c'est notre choix.
J'aime bien quand vous dites yeah, yeah, yeah. Karine, vous êtes d'accord avec tout ce que dit Eva?
Je suis d'accord avec elle. C'est qu'on doit affirmer qui on est vraiment. Et c'est sûr que c'est difficile dans cette société de consommation de s'affirmer de façon un peu différente sur le côté de l'assiette, comme on dit. Mais voilà, moi, je fais ce genre de documentaire aussi pour montrer combien la libération de devenir soi-même est importante. Et qui sommes-nous pour juger l'autre en permanence? Effectivement, ça suffit. Mm. J'ai toujours dit que j'avais fait de la chirurgie esthétique. Et ça me regarde moi et j'ai pas envie. J'en ai rien à faire.
Spécialement les femmes. Ouais. I think we judge harder than anybody.
Les femmes sont des juges
on
encore
se juge
plus dures que les autres.
Très mal, surtout. Et on se compare tout le temps. C'est ça le problème des femmes. C'est vrai.
Mais si, moi je me suis pas comparée avec moi. Je suis restée tranquillement dans mon coin.
Ça va, on était
moins. J'espère qu'on me voit pas trop, c'est tout. Parce qu'on avait même des belles femmes ce soir à la table de C'est à vous. Le walk your worth, je l'ai mal traduit. Alors je sais pas, marche ta fierté, marche ta valeur ou. Bon, c'est intraduisible. Marche parce que tu le vaux bien. Voilà, c'est dimanche, là, à 20h à l'école militaire.
parce voilà. que vous les valez bien.
Voilà, voilà. En marche parce que tu le vaux bien. Ça, c'est le défilé L'Oréal. Et je rappelle aussi que vous avez une fondation, The Eva Longoria Foundation, pour aider les communautés hispaniques aux États-Unis. 27% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. 15% des adultes d'origine hispanique ont des diplômes universitaires. Comment est-ce que vous les aidez concrètement?
Yeah. Well, also we're the fastest growing demographic.
En fait, c'est la démographie qui se développe le plus rapidement aux États-Unis. Une personne sur quatre aux États-Unis sera latino dans les 20 ans à venir. Donc, il s'agit de la force de travail à l'avenir aux États-Unis. Si ces personnes ne sont pas éduquées, ne sont pas instruites, il y aura un problème. Et pour moi, être sûr qu'il y ait un chemin, une voie vers l'éducation de qualité au-delà du primaire, au-delà du secondaire, pour pouvoir assister à l'université, avoir une carrière, avoir un travail, on peut effectuer la différence, surtout pour les femmes. Donc moi, je me concentre sur les femmes latinas pour être sûre qu'elles comprennent quelles sont les opportunités et qu'elles ont une possibilité d'avancer économiquement. Parce que si on aide une femme, elle va aider sa famille.
Eva Longoria, président.
Président
de L'Oréal.
Il y a une grosse différence quand même entre la France et les États-Unis où tu vois, les Américains, ils aident vraiment les gens de leur communauté, et, y compris dans les universités, ils vont coopter des gens, etc., pour les faire grimper. Mm-hmm. En France, on a tendance à dire « Oh, moi, j'aimerais bien qu'ils descendent avec moi quand même. Mm-hmm. » Et ça, ça ne marchera pas. Mm-hmm. Il faut qu'on s'entraide.
Ben voilà, c'est des beaux messages qui sont délivrés ce soir sur le plateau de C'est à vous. Et j'aime bien que ces messieurs écoutent sagement.
Ils prennent des notes.
Ils prennent des notes.
Je n'ai plus de problème de cheveux gris.
Quel plaisir de vous avoir toutes les trois sur ce plateau. Vous restez avec nous. Un garçon, Mohamed Bouafsi, une story.
That was so fun, thank you.
It's not finished yet. The fun is going on.
Oh, okay.
Avec Mohamed.
They had to make it even, equal.
Oui, voilà. Now we are still four. Et on est toujours quatre, ils sont que trois. Hein. Power.
Avec que soit Mohamed,
et un créateur qui a connu l'exil en pleine préparation de la Fashion Week.
Oui, à 26 ans, Sami Nouri n'est pas un créateur de mode comme les autres. Il est né en Afghanistan. Il est encore très jeune quand, après l'arrivée des talibans au pouvoir et l'assassinat de son grand frère, il fuit le pays avec sa famille.
On a quitté l'Afghanistan quand j'avais l'âge de 5 ans pour aller en Iran. Et en Iran, j'avais 5 ans et la vie c'était pareil, c'était pas mieux qu'en Afghanistan parce qu'on avait toujours peur, parce qu'on n'avait pas de papier, etc. Finalement, on a resté 9 ans en Iran et à part travailler à la maison, on ne faisait pas d'autres activités. Je n'ai pas vraiment de souvenirs. En Afghanistan, le souvenir, c'était les poussières et les vêtements traditionnels, la peur.
Jour après jour, la famille Nouri économise afin d'offrir un passeur à son fils, un voyage vers l'Europe, un voyage vers le monde occidental. C'est ainsi qu'à 14 ans, seul, Sami parvient à rejoindre la France. Son passeur l'abandonne à Tours, où il est arrêté par la police. Mais la France, n'expulsant pas les mineurs étrangers, il est envoyé en famille d'accueil et en foyer. Sur une table, un objet lui rappelle son enfance. C'est un déclic.
Un jour, je vais à l'école, je rentre de l'école, je vois la maîtresse de maison qui travaillait avec une machine à coudre, elle faisait des torchons, des trucs comme ça. Et j'ai demandé si je peux travailler. Elle avait très peur, elle me dit non, ne touche pas et tout. J'ai dit j'ai déjà fait. En plus, j'avais énormément de difficultés au niveau de la langue. Et finalement, elle me dit vas-y, essaye. J'ai essayé, elle a vu vraiment. En plus, c'était une machine familiale, ça roulait vraiment pas vite. Et j'ai essayé, elle a vu, elle m'a dit « Ah, tu sais faire et tout ». Et après, elle a commencé à parler avec tous les éducateurs et c'était bouche aux oreilles. Et après, j'ai demandé s'il peut me prêter la machine à coudre. Et en fait, dans ma chambre, parfois, bah, je m'ennuyais, je faisais des trucs pour moi, genre des t-shirts, j'écrivais mon nom, prénom ou des pantalons. Et c'est comme ça que c'est parti.
La famille de Sami parvient à le rejoindre en France. Un an et demi plus tard, Sami intègre une école de mode et parvient, malgré son français approximatif, à l'époque, à obtenir un stage chez John Galliano, qui repère très très vite son talent. Il va travailler ensuite avec Jean-Paul Gaultier. Aujourd'hui, il ne travaille plus pour personne. Il a créé sa propre griffe de haute couture, Sami Nouri Paris. Mais il n'a rien oublié. Il fait de cette douleur de l'exil l'emblème de sa marque.
Je me suis dit, bon, je vais m'inspirer de chaudeur et de tenue traditionnelle d'où je viens. Et à côté de ça, bah, la signature, j'ai réfléchi beaucoup, mais en fait, je me suis rendu compte que bah, tout le chemin que j'ai passé, je voulais la liberté, j'ai réussi à arriver dans un pays libre, et toutes les frontières que j'ai passées, il y avait des barbelés.
Samy a été profondément marqué par les neuf années passées en Iran. Alors que ses parents cherchaient la liberté en quittant l'Afghanistan, ils n'ont trouvé que répression et violence. La mort de Mahsa Amini et la révolte de la jeunesse iranienne lui donnent de l'espoir, l'espoir d'un changement. Les plumes qui ornent nombre de ses créations sont autant de symboles, hommages à ceux qui rêvent d'échapper à des régimes répressifs, comme il a pu l'expliquer au micro de Louis Amar et d'Audrey Payas.
J'ai beaucoup travaillé avec des plumes, corsets, tulle, avec l'actualité qui passe en Iran, etc. La liberté de femme, que je en parle tout le temps. Je voulais montrer mettre en valeur la corps de femme, plus les plumes, c'est les oiseaux, la liberté, le s'envoler.
Le défilé de Samy Nouri aura lieu dimanche à 19h à Paris. Samy a également publié un livre pour raconter son incroyable histoire, paru ce mois-ci chez Robert Laffont, sobrement intitulé « La machine à coudre ». C'est inspirant, Karine, Eva Longoria, de voir qu'un homme qui a quitté les territoires de guerre, ces territoires d'oppression, et qui parle d'émancipation de la femme.
Karine, vous vouliez dire ?
Je trouve intéressant de voir que quand nos parents, je pense que c'est mon cas, c'est le cas aussi d'Eva et de toute la communauté latino dont elle prend la défense, quand nos parents ont sacrifié leur vie pour donner à leurs enfants un avenir meilleur, un espoir de vie meilleure, on leur doit le respect, on leur doit de réussir. C'est quelque chose qu'on ne lâche pas parce qu'on sait d'où on vient.
Non, je suis d'accord. Yeah, I think it's beautiful.
And je pense que c'est beau. C'est beau et j'aime beaucoup que vous en parliez. Il y a beaucoup d'histoires comme la sienne dont on ne célèbre pas assez. En fait, un enfant d'immigré qui comprend vraiment les opportunités dans un autre pays. Pour nous, aux États-Unis, je suis mexicaine. Et donc, la question d'immigration est vraiment très difficile en ce moment et on maltraite les immigrants. Et quand on est immigrant, on ne choisit pas de quitter son pays, mais on est obligé de quitter son pays, son pays, sa famille. Et ce n'est pas pour aller s'amuser aux États-Unis. En fait, on fuit quelque chose. En fait, parfois, c'est une question de vie et de mort. Donc, on devrait les accueillir et les soutenir partout dans le monde.
Voici Eva. Pour parfaire votre français, Karine, je vous en offre, okay. un juste
Merci.
Après.
Merci.
Emma aussi.
Thank you. Voilà.
Tout de suite, le 5 sur 5 de Mathieu Béliard. D'autres sujets à vous soumettre, mesdames.
Bonsoir à toutes et à tous.
Mathieu, en fin d'après-midi, on a appris l'arrestation en Belgique de l'imam Iqwissen.
Oui, l'imam qui avait fui la France, au moins depuis le feu vert donné par le Conseil d'État pour l'expulser. Mmh. Gérald Darmanin avait annoncé son vœu de l'expulser au cœur de l'été pour un discours prosélyte, je cite, émaillé de propos incitant à la haine et à la discrimination. Le ministre de l'Intérieur avait qualifié l'imam à la tête d'une chaîne YouTube de près de 180 000 abonnés de porteur d'une vision de l'islam contraire aux valeurs de la République. Il était visé par un mandat d'arrêt européen depuis sa fuite de France. C'est le ministre belge de la Justice, Vincent Van Quickenborn, qui a annoncé son arrestation par la police à Hassan Iqwissen, qui se trouvait, vous le voyez, à Mons. On est à moins de 15 km de la frontière française. C'est sur la carte. Il revient à présent aux autorités belges de le remettre à la France, où la procédure reprendra son cours.
Les Américains prennent la mesure de la violence de l'ouragan Ian qui a traversé la Floride.
Oui, nous en parlions hier, bien sûr, avant que les premiers bilans ne soient communiqués. Au moins 12 personnes ont péri dans les intempéries au passage de la tempête. On redoute une aggravation substantielle de ce nombre. Des villes entières inondées, puis dévastées par les vents. Des millions de personnes privées d'électricité. Même Joe Biden, le président, fait état d'un bilan historique.
This could be the deadliest hurricane in Florida's history. The numbers are still unclear, but we're hearing early reports of what may be substantial loss of life. We're going to do everything we can to provide whatever they need. We are here. Whether you need and whatever you need, I indicated to call me directly at the White House.
À l'image, une caméra de surveillance qui a filmé la montée des eaux à Fort Myers, une des villes les plus sinistrées, ville de près de 90 000 habitants sur la côte ouest de Floride. Les images, bien sûr, vous l'avez deviné, sont accélérées, mais vous pouvez mesurer comme des villes entières ont été submergées. Le gouverneur de l'État tient des points de presse réguliers et il appelle même après le passage de Yann, à rester prudent.
There's going to be hazards out where people can be in harm's way still. Just because the storm has passed does not mean that there's not additional hazards. Started in the wee hours of the morning. As soon as the winds died down enough to where it was safe, you had Coast Guard assets, you had urban search and rescue teams. We've had the National Guard out assisting people. There have been more than 700 confirmed rescues, and there's likely many more than that.
Et après la pluie, la tempête, viendra le temps de la reconstruction. Il faut nettoyer, ramasser, écoper parfois. Et il faudra plusieurs semaines, mais déjà les habitants sont sur le pont.
It was just the most horrifying sounds, you know, and with the debris flying everywhere, you know, doors flying off everywhere. The bathroom down here area is just completely smashed in from all the water and lake water.
I was in my apartment at first, and then after a little bit, it wasn't flooding. Within 30 minutes, it was within up to my door, and within an hour, it was pushing through my door.
It's just material things, man. We're alive. I'm sure there's a lot of people out here that didn't make it. There's a couple things that can't be replaced, but it's just material stuff.
Une dernière image attendrissante sous le soleil d'après la tempête. Regardez cette femme venue secourir ses petits-enfants en kayak.
I'm really stressed. It's been rough. My house flooded, her house flooded. I mean, we all flooded, so yeah. These are my grandbabies, so...
Eva Longoria, est-ce qu'on a conscience aux États-Unis de l'accélération de ces phénomènes climatiques, du fait que ce genre d'épisode sera de plus en plus fréquent et de plus en plus intense?
Oui, dans le monde entier. Hein, cela arrive en Floride, en Puerto Rico, en Cuba aussi. J'habite à Mexico et nous avons eu 2 tremblements de terre la semaine dernière. Donc il se passe beaucoup de choses dans le monde en ce qui concerne la nature.
La question, c'était est-ce que vraiment les Américains, dans leur majorité, ont conscience du changement climatique et de l'urgence climatique?
Bonne question. My answer is yes, because
je dirais oui. Parce que je pense aussi que la question des droits des femmes, il y a une petite minorité qui fait beaucoup de bruit. Qui sont contre le changement climatique. Ils disent qu'on ne peut pas y croire, mais en fait, c'est un fait. Il y a des gens quand même incroyables qui font des travaux très importants pour s'assurer que les gens ne puissent pas se poser la question s'ils y croient ou pas, mais qu'ils soient convaincus que cela arrive et on commence à combattre.
États-Unis, toujours, le procès entre Johnny Depp et son ex-femme Amber Heard, adapté en fiction.
Déjà, il y a une première question, est-ce qu'on a envie de voir ça? Mais il y a aussi une autre interrogation, le procès s'est tenu au printemps dernier seulement. Il est déjà adapté en téléfilm pour une plateforme américaine. On se souvient du procès trash, du grand déballage, des accusations mutuelles. Hot Take, The Depp Heard Trial, la bande-annonce, ça donne ça.
It's day one of the Depp versus Heard defamation trial. Though the fans are showing support for both sides, there's clearly a favorite here.
The drug use and the medications had gotten so bad, and it scared me.
Girl just wants some attention.
It didn't happen.
I'm so tired of this, I can't keep doing it.
This trial, it's about the truth.
It did tell the truth.
I have the right to say what happened to me.
Your Honor, may we introduce the next tape?
Can't wait to see what's next.
Just asking if you want.
Okay.
Les acteurs sont ressemblants, la voix de Johnny Depp y est presque, il faut le reconnaître. Hein. Ce procès a été filmé de bout en bout, un vrai feuilleton à la télé américaine. Et même si je n'ai vu que cette bande-annonce, pour le moment, ça va être difficile de faire aussi fort que l'original.
I'm sorry that I didn't hit you across the face in a proper slap, but I was hitting you. It was not punching you.
She would strike out. She would. It could begin with a slap. I would just go and lock myself in. You know, the bathroom or anywhere that she couldn't get into.
Just shoved his fingers inside me. Just stood there staring at the stupid light.
My side of the bed was human fecal matter. It was so outside. It was so bizarre. And she just tried to blame it on the dogs.
Eva, vous avez envie de le voir, ce téléfilm?
Non.
No, the original trial was so
riveting. C'est vrai que le procès d'origine était tellement enthousiasmant, bah, ce n'est pas la peine que je voie la suite.
Donc, je crois que c'est clair. Et tout le monde est à peu près d'accord. On quitte les États-Unis pour le Brésil où l'on vote dans deux jours.
L'élection présidentielle dimanche et hier soir, le dernier débat, la dernière ligne droite. Les candidats sont 11 au total, mais depuis plusieurs semaines, la course électorale a déjà viré au duel entre Jair Bolsonaro, le sortant, et l'ancien Lula, qui a présidé de 2003 à 2011. Un duel sans merci. Morceau choisi.
Tout dans son gouvernement foi aparelhado. Tout.
C'est le pays que l'actuel président est détruit.
Qui, le ex-presidiario, apoiou no passado? Apoiou Chaves, apoiou Maduro e o Lula apoiou essas candidaturas.
E eu queria que a senhora dissesse, houve ou não houve corrupção no processo de tratamento da Covid? Houve ou não houve negligência do governo no cuidado da vacina?
Alors, il faut dire que c'est un match très serré, non pas entre les deux candidats, pas du tout, l'écart est assez important, mais parce que Lula pourrait même l'emporter dès le premier tour. Reste à voir quels effets aura le débat d'hier soir. Sauf que Jair Bolsonaro compte sur un autre soutien de poids. Ce n'est pas que le candidat de l'extrême droite, c'est aussi celui de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est son épouse, Michelle Bolsonaro.
Estamos aqui lutando pelo bem maior que a nossa família e a nossa liberdade. Estamos aqui lutando por princípios e valores que Deus estabeleceu na Terra. Não estamos aqui por poder e muito menos por status. Estamos aqui para cumprir um chamado e um propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas.
Un autre soutien qui se manifeste particulièrement ces derniers jours, dans la dernière ligne droite, un Brésilien que l'on connaît très bien ici en France, le footballeur Neymar, qui, il y a deux jours, remerciait le président d'avoir visité sa fondation, opportunément, à quatre jours du premier tour. L'attaquant du PSG, qui est aussi la star de l'équipe nationale brésilienne, avant le débat d'hier, sur ses réseaux sociaux où le suivent des millions de fans, Neymar était beaucoup plus explicite. En réalité, Neymar reprend un chant de ralliement des supporters de Bolsonaro qui rappelle de voter 22 sur les machines électorales, 22 pour Bolsonaro.
22 é Bolsonaro. Vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro. Vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro. Vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro.
Voilà, moi j'ai été très surprise ce matin quand j'ai entendu le soutien de Neymar à Bolsonaro.
Beaucoup de footballeurs soutiennent Bolsonaro.
Au Brésil.
Il a des ennuis judiciaires et Bolsonaro pourrait lui donner un coup de main aussi, si j'ai bien compris.
Pour les raisons fiscales. Sauf qu'il risque de ne pas gagner. Donc,
et Rai lui vote Lula.
Voilà. Merci beaucoup Eva Longoria d'être venue ce soir. Je rappelle le défilé L'Oréal, Walk Your Worth. Pas facile à dire, c'est dimanche à l'école militaire. Merci chère Karine, merci Emma Vaconnet. France, unique en leur genre, c'est à voir le jeudi 6 octobre sur M6. Merci de faire ces documentaires, de ne pas avoir la langue de bois. Et franchement, il y avait beaucoup d'intelligence ce soir sur le plateau de C'est à vous. Et de la beauté. Voilà. Et il y avait moi. À tout de suite pour le dîner de C'est à vous. Un dîner lyonnais avec Laurent Gérard, entre autres.